Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes chers amis, le Saint-Esprit révèle à Saint Jean dans l'Apocalypse que l'Église sera ravagée par des sauterelles qui prendront une apparence de chevaux. Elles auront une chevelure féminine, une cuirasse autour du torse, des dents de lion, une queue de scorpion et une couronne comme d'or sur la tête. Alors ne cherchez pas à faire le tableau de telles sauterelles chevaux et comprenons ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Il nous révèle que l'Église sera ravagée par des sauterelles, et nous ne savons pas, nous, dans les pays tempérés, nous ne savons pas ce que sont les sauterelles. Et dans les pays du Sud, comme en Algérie, par exemple, lorsque un nuage de sauterelles arrive sur un champ, il ne reste plus rien. Tout est mangé, tout. Ces sauterelles, une fois qu'elles ont tout ravagé, ou en même temps, sont comme des chevaux parés pour la guerre, c'est-à-dire qui piétinent, qui foncent, qui démolissent. Inutile de vous dire que l'état apparent de l'Église, après cela, ne sera pas beau. De plus, ces sauterelles ont une chevelure féminine. Que des femmes aient une chevelure féminine, c'est normal. Mais que des sauterelles chevaux aient une chevelure féminine, ça prouve qu'il y a nettement un problème. Même les femmes, d'ailleurs, qui ont une chevelure féminine, font attention à ne pas répandre leurs cheveux comme cela. La femme sait très bien que le cheveu lui a été donné par Dieu comme un ornement et que comme tout ornement, celui-ci doit rester modeste, discret pour son mari. Et évidemment, on ne déploie pas la chevelure à tout vent quand on sort dehors comme si on n'était pas marié. Quand même important cela. Que des chevaux et d'une chevelure de femme. L'Écriture sainte nous fait comprendre que ces chevaux n'agissent que par la sensibilité, par les sens. Ils n'ont plus de raison. Quand un cheval n'a plus de cavalier, il n'a plus de raison. Il rue, il se cabre, il casse tout. Cette chevelure féminine, on la voit aujourd'hui, hein. Nous sommes dirigés ou prétendument dirigés, parce que nous n'acceptons pas d'être dirigés par des hommes pareils. Nous sommes prétendument dirigés par des gens qui sont esclaves de leurs passions, qui n'ont plus aucune raison. C'est la pure haine de toute autorité, la pure haine de tout ce qui est viril, masculin. Quand je parle de viril, je ne parle pas de gros muscles, évidemment. On peut être viril sans avoir de muscles. Et on peut avoir des muscles sans être viril. Je parle de la raison. On complète le tableau. Ils sont des vraies femmes sentimentales, esclaves de leur passion, et en même temps, ils ont le cœur dur. On ne peut pas leur toucher le cœur, et rien ne sort de leur cœur, car il y a une carapace autour du torse. C'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez un Bergoglio qui favorise les vices les plus honteux et qui en même temps est d'une sévérité invraisemblable, d'abord envers ceux qui sont tombés et qui veulent s'en sortir. Or, l'Église est miséricordieuse. On dit qui a bu boira Bon, c'est peut-être vrai chez le médecin, mais c'est pas vrai au confessionnal. C'est pas vrai au confessionnal. Une fois, mon supérieur évêque m'a sorti cela. Je protégeais un pauvre prêtre qui avait des difficultés. Il m'a dit qu'il a bu, boira. Oh, je lui ai dit, écoutez, monseigneur, ça suffit. Pourquoi êtes-vous prêtre? Pourquoi donne-t-on l'absolution? C'est pas vrai. Qui a bu, boira, si on l'aide pas. Mais si on l'aide, il boira pas. Et c'est vrai pour tous les autres vices. Seulement voilà, on a des chefs qui ont le cœur dur et qui ne tendent pas la main à celui qui malheureusement est tombé, alors qu'ils ont protégé leur complice. Et puis alors, d'une dureté envers quiconque s'oppose avec la raison à eux, il n'y a qu'à voir comme tous les évêques qui sont un tant soit peu sérieux aujourd'hui, gicle, il n'y a pas d'autre terme. Le pape prétend d'une pichenette les faire gicler. Cœur dur. Avec cela, que de scorpions. Quand vous voyez arriver le serpent, vous savez, avec sa gueule qui va vous mordre. Et vous mettez en garde. Le scorpion, la queue est par derrière, vous méfiez pas. Puis tout d'un coup, elle passe par-dessus la tête et vous êtes mort. Et qui sont ces gens? Ce sont des gens qui ont une couronne comme d'or. Dans l'Apocalypse, au début de l'Apocalypse, la couronne d'or est le signe de Dieu, du Christ, et des vieillards qui sont avec le Christ. Ils ont une couronne d'or, du véritable or, ce qui sont les rois. Le Christ est le roi et on règne avec lui. Et là, ces gens-là prétendent avoir une couronne d'or. Ils ont bien une couronne, mais elle est de faux or. Ce sont des intrus. Ce sont des usurpateurs. Maintenant que nous avons fait le tableau, la première question qui se pose quand on voit un tel tableau, c'est mais pourquoi le bon Dieu a-t-il voulu ça? A-t-il permis cela? Est-il possible que l'Église soit dans cet état? Il y a 50 ans, quand j'étais au séminaire, on se posait la question, est-il possible que le pape travaille à ce point contre l'Église? Mais maintenant, cette question du pape est dépassée. Est-il possible que Dieu laisse son Église ravager à ce point? Qu'est-ce que le bon Dieu a dans la tête? Et nous sommes désemparés, nous avons tort parce que Dieu est sage. Nous ne devrions pas être désemparés, mais c'est normal que nous soyons désemparés malgré tout, parce que notre nature est bien faible, et que justement cette révélation qui nous est faite dans l'Apocalypse a pour but de nous faire monter notre raison au niveau de celle de Dieu, de nous faire comprendre la sagesse de Dieu dans les épreuves, ce qui ne nous est pas naturel. Pourquoi le bon Dieu fait-il cela? Pour punir ceux qui veulent réformer son œuvre. Ceux qui veulent faire une société différente de celle que Dieu a faite, parce qu'ils estiment que Dieu n'est pas sage, parce qu'ils estiment que Dieu n'est pas vrai, parce qu'ils estiment que Dieu a tort puisqu'il n'est pas dans leur camp. C'est aussi simple que ça. C'est une révolte. Alors ils veulent faire une société sans autorité. On a commencé par faire une société sans roi. Et puis après ça, on fait une société sans chef. Quand on coupe la tête du roi, on dit c'est très triste, qu'est-ce que vous voulez, le pauvre Louis XVI. Enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Puis après ça, on a une société sans chef. Ah, oh, c'est comme ça, oui. Puis on a une société sans responsable. Ah, oh, c'est comme ça. Puis après ça, on a une société sans père. Avec l'autorité parentale partagée, il n'y a plus de père. Si elle est partagée, elle est partagée, elle est morte. Je ne dis pas que la mère n'a pas d'autorité, mais elle a une autorité subordonnée, comme le père a une autorité subordonnée à celle de Dieu. Ou plus exactement, la mère a une autorité subordonnée à celle du père, le père a une autorité subordonnée à celle du Christ. Le Christ a une autorité subordonnée à celle de Dieu. Et quand nous voyons que le Christ s'est humilié au point de subordonner son autorité souveraine sur la terre à celle de Dieu son Père, il devrait nous paraître normal qu'un prêtre prêche en disant qu'un homme doit avoir l'autorité, bien qu'elle soit subordonnée, et que la femme a une autorité subordonnée. Ah non, nous sommes misogynes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Misogyne. Eh bien, quand on pense que le prêtre qui prêche ça est misogyne, c'est qu'on pense pouvoir faire les choses autrement que Dieu les a faites. Dieu n'est pas sage. Dieu n'est pas égalitaire. Dieu ne va pas dans notre sens. Ça mérite une punition, ça. C'est bien plus grave que de couper la tête d'un roi. Et la même chose dans l'Église. La même chose. Saint Pie X dit que les modernistes veulent réformer l'Église de l'intérieur. Et il dit, ils prétendent la réformer à la racine. Réformer à la racine, c'est la détruire. Réformer un arbre à la racine, ce n'est pas tailler les branches, c'est le détruire. Et il dit, c'est un complot contre l'Église. L'Église ne leur plaît pas. L'Église ne leur plaît pas parce qu'il y a une union dans l'Église de majesté et d'humilité. D'humilité qui humilie leur orgueil et de majesté qui s'impose à eux. C'est merveilleux. Ce que Jésus-Christ a confié au pape, c'est absolument merveilleux. C'est une union de majesté, de souveraineté, d'autorité et d'humilité dans le service. Comme un père abbé. Ah, ça leur plaît pas. Ils démolissent. Alors que fait Dieu? Dieu dit, eh bien, vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir votre société, ce qu'elle va devenir. Quand vous aurez supprimé les rois, quand vous aurez supprimé les chefs, quand vous aurez supprimé les maîtres, quand vous aurez supprimé les hommes, quand vous donnerez le gouvernement aux femmes, puisque vous avez une femme qui est maintenant vice-gouverneur du Vatican. Sur son lit d'hôpital, Bergoglio a signé un décret pour nommer une femme vice-gouverneur du Vatican et commande à des cardinaux. Ah, oh, les femmes au travail, c'est pas bien, on a du mal à les supporter, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, on a commencé par demander à des femmes d'être secrétaires des hommes. Et puis l'homme était tout content parce qu'il était aidé par une secrétaire toute dévouée. Mais évidemment qu'elle était toute dévouée. Ce sont des femmes qui ont été éduquées à être dévouées à l'homme. Elles étaient des secrétaires dévouées. N'empêche qu'elles n'étaient plus avec leur mari. Parce que la femme soit secrétaire de son mari, c'est normal. Mais que la femme soit secrétaire d'un autre, ce n'est pas normal. Et puis. Et maintenant, on arrive à avoir des femmes chefs de dicastère à Rome. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des sauterelles qui mangent tout. Ça donne des chevaux, des femmes chevaux qui détruisent tout. Des chevaux à la chevelure féminine. Ça donne des dents de lion, ça donne des carapaces avec le cœur dur. C'est pas les femmes chefs du FMI qui vont avoir le cœur tendre, hein. Oui. C'est pour ça que le bon Dieu l'a permis. Et du coup, il marque plusieurs points d'un coup. D'abord, il punit ses ennemis. Vous voulez le faire? Eh bien, vous allez voir ce que ça donne. Et comment ça se termine? Que les femmes sont laminées. Elles sont les victimes. Il ne reste plus rien. Et c'est les conséquences du vice. Deuxième chose. Il montre au bon. Vous avez vu, vous qui êtes fidèle, voilà ce que ça devient quand on est infidèle. Alors ne commencez pas. N'entrez pas dans ce petit jeu. Mon père était rarement sévère, mais quand il s'agissait de choses comme celles que j'explique tout de suite, il était d'une sévérité. Tu n'entres pas dans ce petit jeu. Merci papa. Et merci maman. Voilà la sagesse de Dieu. Et il nous avertit, nous, de manière à ce que nous ne soyons pas désemparés dans cette crise terrible. Parce que j'ai réservé le meilleur pour la fin. Les sauterelles chevaux n'ont pas le droit de toucher à l'herbe verte et elles n'ont pas le droit de toucher à ceux qui portent le signe de Dieu sur leur front. C'est-à-dire que les vrais fidèles qui composent la vraie Église, qui sont les vrais amis de Dieu, qui font la véritable Église, même si le monde les méprise, même si le monde considère que ce n'est pas eux l'Église, que c'est Bergoglio l'Église et que nous ne le sommes pas, c'est pas vrai. Les vrais fidèles sont l'Église, et ceux-là, ils sont intouchables. Ah, merci mon Dieu. Qu'est-ce que ça suppose? Et ça tombe très bien que j'ai prévu ce sermon pour vous, les amis du Sacré-Cœur, qui vous êtes réunis entre hommes. Je dis pas entre garçons, je dis entre hommes, pour être des hommes. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que vous devez porter, ça suppose que nous devons tous porter fièrement la croix sur notre front. La croix, on peut la porter sur les épaules avec courage. On peut la porter dans les bras avec amour. On la porte sur le front avec fierté. Et cette fierté, c'est par rapport au monde. On peut la porter tout seul dans les bras. On peut la porter tout seul sur les épaules. On la porte pas tout seul sur le front. On la porte sur le front pour le monde, pour témoigner au monde. Avec comme première récompense, que ce témoignage de notre foi, parce que la croix c'est la vérité, la croix ce n'est pas seulement la soumission, ce n'est pas seulement l'expiation des péchés, la croix c'est la vérité. Cette vérité portée fièrement arrête les armées ennemies, elle arrête les sauterelles, elle arrête les chevaux, elle arrête les scorpions. C'est ce qu'on a vu avec Monseigneur Lefebvre. Le monde a prétendu l'écraser et s'est arrêté à ses pieds. Et ceux qui lui ont été fidèles, le monde s'est arrêté à leurs pieds. Nous n'avons pas été écrasés, Monseigneur Lefebvre n'a pas été écrasé, je n'ai pas été écrasé, mes parents n'ont pas été écrasés, vous n'avez pas été écrasés, vous tous dans le cœur, vous n'avez pas été écrasés, le monde s'est arrêté à vos pieds, parce que vous portez fièrement la croix. C'est capital. Évidemment, ça suppose un acte de foi. De supposer que la marque de Dieu sur notre front est plus puissante que les sauterelles et les chevaux. Mais les sauterelles et les chevaux sont puissants du côté des sens, mais pas du côté de la raison, tandis que nous, notre marque est une marque de la raison de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la vérité de Dieu. Deuxièmement, nous avons un cœur qui n'est pas enfermé dans une carapace de fer. Ce cœur nous est donné pour nous pencher sur ce pauvre monde moderne, dévasté, profondément blessé. Nous devons comprendre, et c'est très difficile de comprendre la blessure profonde du monde moderne, parce qu'elle n'est pas naturelle. Parce qu'il n'est pas naturel que le monde se comporte comme il se comporte. Évidemment, c'est une révolte, c'est pas naturel. Alors nous avons un cœur qui nous a été donné par Dieu pour nous pencher sur cette misère. Ah, on nous dit, monsieur l'abbé, n'oubliez quand même pas que c'est la raison qui commande. Mais qui vous dit qu'on oublie la raison quand on a du cœur? C'est au contraire la raison qui dirige le cœur. Nous savons où est le but, nous voulons emmener au but, et nous nous penchons pour guérir les plaies, de façon à ce que celui dont la plaie sera guérie puisse enfin courir. Et courir là où nous avons vu, quel est le but? Voilà, mes chers amis, Je voulais vous dire également, je vous le dis à la fin, tant pis, ça casse un peu l'effet. Pourquoi il faut pas toute l'informatique, Internet, les vidéos, l'audiovisuel et tout le bazar? Parce que c'est des trucs de chevelure de femme. Tous ces trucs-là, c'est des chevelures de femme. Il faut savoir ce qu'on est. N'allons pas discuter. On ne discute pas avec ça. On le subit un tout petit peu dans la mesure où on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais on ne va pas dans ce sens-là. Alors je vous disais, n'ayez pas de chevelure de femme. Et puis ayez de la femme le grand cœur. Prenez à la femme le grand cœur et non pas sa chevelure. Sa chevelure est faite pour tromper les hommes. Enfin, elle n'est pas faite pour ça, excusez-moi. Elle est faite pour l'honneur de son mari et l'honneur de la femme. Mais les mauvaises femmes s'en servent pour tromper les hommes. Et leur cœur est fait pour se pencher sur les enfants faibles. Alors à nous d'avoir un grand cœur et d'avoir la croix sur le front. Voilà quel est notre idéal. Celui qui n'a pas compris ça, que Dieu lui accorde d'avoir des amis pour le lui faire comprendre. Et ce faisant, le monde verra la différence. Parce que il verra notre sérénité, il verra notre joie. Ne me dites pas que vous êtes malheureux, c'est pas vrai. Il verra votre sérénité, notre sérénité. Il verra notre joie. Il verra notre enthousiasme. Dieu en nous, notre enthousiasme. Et dans le monde, ceux qui accepteront de sortir avec la grâce de Dieu de ce marécage du monde verront la différence. Et c'est comme cela, qu'ils commenceront à s'orienter vers Dieu. Les martyrs sont pour cela un très bel exemple. Il est évident que lorsque Dieu promet que les sauterelles chevaux ne toucheront pas l'herbe verte, ni ceux qui ont la croix sur le front, il ne parle pas des corps, il parle des âmes. L'expérience est là pour nous montrer qu'il ne parle pas des corps. C'est une évidence. Depuis que l'Église est l'Église, il y a des martyrs. Mais depuis que l'Église est l'Église, il y a des martyrs, et depuis qu'il y a des martyrs, et chaque martyr est une victoire. Chaque martyr est une victoire. Une victoire personnelle et une victoire pour l'Église. Lisez Rose Hue. Et lisez le récit de ce Vietnamien, j'ai encore oublié le nom, pardonnez-moi, qui n'était pas baptisé, qui pendant 20 ou 30 ans, c'était même pas des geôles, c'était pire que le mitard, dans des caves communistes, a résisté. Il a résisté parce qu'il disait le « Je vous salue Marie ». Quand il est sorti de là, pas baptisé, il est allé à Lourdes remercier la Sainte Vierge et il s'est fait baptiser. Voilà des gens qui portent la croix sur le front. Même avant d'être baptisé, ils portent la croix sur le front. Notre-Dame, Reine des Martyrs, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.